Bonjour à tous. Toujours dans cette quête d'essayer de comprendre ce que l'intelligence artificielle peut d'ores et déjà faire aujourd'hui et ce qu'elle pourra faire demain, il faut comprendre ce qu'il y a derrière les modèles les plus performants du moment comme ChatGPT et voir comment on pourrait derrière aller plus loin. Alors, il faut bien voir déjà que ChatGPT repose sur des systèmes qu'on appelle les Large Language Models, donc les LLM, des modèles qui reposent sur de l'entraînement à partir de corpus de texte, donc le langage au format textuel, des corpus de texte faramineux. L'idée est donc de faire digérer à des IA le plus de texte possible pour que l'IA puisse y détecter des régularités, des patterns en anglais, et ainsi, sur la base d'une requête, d'un prompt, essayer de deviner ou d'imaginer ce qui devrait suivre de façon la plus probable. Donc l'idée, c'est d'essayer de finir la phrase, en anglais on dit de autocomplete. Sans garantir que ce sera la réponse absolue la plus exacte, mais la réponse la plus probable. Les mots qui doivent suivre sont ceux qui, le plus probablement, viennent suivre ceux qui précèdent sur la base de tout ce qui aurait été ingéré jusque-là. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et en fait, on se rend compte que si on fait ingérer à ces systèmes assez de textes, grâce à assez de puissance de calcul, on arrive à un pouvoir prédictif assez hallucinant, qui repose donc sur un langage humain, mais comme c'est ce qu'on utilise nous pour communiquer, pour raisonner, pour imaginer, ça nous impressionne et ça donne l'impression d'une très forte intelligence, même si en fait il n'y a pas, à vrai dire, a priori d'âme derrière ces modèles. On a juste affaire à un chatbot ou à quelque chose capable de finir mes phrases ou de deviner le mot d'après. Mais malgré tout, en faisant scaler ces systèmes, on s'aperçoit qu'on obtient des modèles de plus en plus prédictifs et de plus en plus impressionnants qui en fait parviennent à nous aider à accomplir de plus en plus de tâches de métiers de bureau, résumer de l'information, synthétiser de l'information. Donc c'est vraiment de plus en plus troublant et on n'est sans doute pas encore arrivé au bout de ce que peuvent faire ces modèles textuels. Mais certains expliquent malgré tout que on va finir par arriver au bout de ce qu'on peut faire avec, parce que on aura bientôt fait le tour de tous les corpus de texte, et d'une part, et même si et qu'au-delà, en fait, sauf à se dire que l'IA va apprendre sur la base de texte qu'elle aura pondu elle-même, mais bon, on peut imaginer là qu'on finirait par tourner en rond et qu'il n'y aura plus forcément énormément à apprendre de là. Mais voilà, donc ce que certains expliquent, c'est que on va finir par manquer de mots, donc on ne pourra pas forcément aller beaucoup plus loin, et de toutes les façons, une véritable intelligence artificielle qui pourrait prétendre rivaliser avec notre niveau d'intelligence, une telle intelligence artificielle aurait besoin de développer une compréhension du monde qui va bien au-delà juste du texte, parce que, évidemment, le monde qui nous environne, ça n'est pas que du texte, nous, on arrive à le vivre via nos cinq sens, mais il y a aussi plein d'autres phénomènes pour lesquels on n'a pas de sens, nous, les êtres humains, donc des phénomènes électromagnétiques, toutes sortes de phénomènes qui font que notre monde est ce qu'il est et qui échappent a priori en très grande partie à ce que le texte peut transmettre. Donc, en fait, de ce point de vue-là, une IA qui n'aura développé sa compréhension du monde que via du texte serait nécessairement limitée, alors que nous, on utilise aussi nos yeux, nos oreilles, etc. Mais finalement, ce qu'on peut répondre à cette objection, c'est que... pour continuer toujours dans le sens de l'objection, c'est que une façon d'aller répondre à ce problème, ce serait d'avoir des robots qui parcouraient le monde partout sur Terre 24h/24 en le filmant, en enregistrant les sons, en enregistrant tout ce qu'on peut enregistrer sur toute la gamme du spectre électromagnétique, donc dans le domaine visible, dans le domaine invisible, que ce soit les rayons X, les ondes radio, l'infrarouge, etc., etc. Donc tout mesurer en permanence partout et déduire des régularités, des patterns dans notre monde pour mieux le comprendre et développer un pouvoir prédictif. Sauf que ça, on en est très loin parce que c'est très cher de construire des robots à diffuser partout. On y arrivera peut-être un jour, mais du coup, alors si c'est la condition, ça veut dire qu'on a le temps avant d'avoir des IA qui pourrait donc rivaliser avec nous. Mais ce que d'autres expliquent, c'est que certes le texte, c'est sans doute une façon limitée d'accéder au monde, mais il n'y a pas forcément pour autant, pour continuer à progresser, d'attendre d'avoir ainsi des robots qui iraient visionner ou parcourir le monde de cette façon. Il existe des corpus d'informations intermédiaires qui déjà peuvent nous donner une bien meilleure idée de ce qui se passe dans le monde réel. Et en fait, bien sûr, je parle de la vidéo. Quand vous regardez toutes les vidéos qui existent, alors déjà tout le cinéma depuis le début de l'ère du cinéma, toute la télévision, tout ce qu'on a fait à la télévision depuis le début de la télévision, quand on voit tout ce qu'il y a sur YouTube, tout ce qui est uploadé chaque jour que Dieu fait sur YouTube, sur TikTok, sur toutes les plateformes vidéo dans le monde, on a là un corpus de vidéos assez incroyable qui vient refléter ce que les gens ont filmé. Alors bien sûr, on est dans de la deux dimensions, mais malgré tout, ce qu'il faut bien voir, c'est que de la même façon que les IA sur le texte ont pu digérer tellement de texte qu'elles arrivent à deviner le mot d'après. En fait, on le voit déjà dans la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'image et la génération d'image et la génération de vidéos qui est embryonnaire. On voit bien qu'une IA qui est suffisamment entraînée, elle parvient à comprendre ce qu'il y a sur une image, à déceler les objets. Et d'ailleurs, Facebook, enfin Meta, vient de publier un nouveau modèle qui s'appelle SAM, Segmentation. Alors, qui permet de segmenter, c'est-à-dire de détailler, de détourer sur une image tous les objets qui apparaissent, de faire un découpage qui sinon sur Photoshop demanderait du temps à un infographiste. Donc le modèle s'appelle SAM, Segment Anything Model, je crois que c'est ce que ça veut dire. Et donc, mais bon, ce sont des technologies qui sont en développement depuis des années déjà, et il y avait déjà des prototypes embryonnaires, mais là ça semble être très au point, on a franchi encore un cap. Et l'idée, c'est que l'IA, en digérant toujours plus de textes, elle va être capable de déceler sur une photo, sur une image, le fait qu'il y a un arbre. Alors par défaut, d'ailleurs, elle ne sait même pas que ça s'appelle un arbre, mais elle sait que tiens, il y a cette espèce de forme qui revient souvent. Alors les feuilles sont pas toujours les mêmes, c'est pas toujours la même couleur, mais il y a quand même assez de similarité. Ça ressemble à... Alors nous on appelle ça route, mais elle va pouvoir distinguer tous ces objets, et puis il y a des objets qui bougent, d'autres qui ne bougent pas. Va pouvoir comprendre que quelqu'un qui court sur une route, c'est un objet qui se détache de la route. Et donc elle va comme ça pouvoir faire sens de plus en plus de ce qui se passe sur ces images. Alors, et ce qui est assez dingue en fait, c'est que ces systèmes-là, à la limite, on n'a même pas besoin de leur dire qu'on appelle un chat un chat. Ils vont être capables de comprendre le concept de chat indépendamment de nous, comment on les appelle. Donc on peut imaginer les entraîner et les laisser découvrir tout ce qui compose les vidéos, ce qui est statique, ce qui est animé, le fait que mon bras appartient bien à mon corps, c'est pas juste un objet qui suit mon corps comme ça sans y être attaché, non, que le tout est bien attaché parce qu'ils sont toujours plus ou moins ensemble. Donc faire sens du monde de cette façon-là à travers juste les images déjà. Alors après, ça ne permet pas de faire forcément sens du monde réel directement, mais c'est quand même un bon intermédiaire. Et alors évidemment, si en plus de ça, on fait la jonction entre le monde du texte et le monde des images, de la vidéo, tout de suite ça devient encore plus magique, parce que toutes sortes de concepts qu'on élabore à partir de mots qui tantôt sont abstraits mais tantôt sont concrets, et si on peut rattacher ces mots qui sont concrets à ce qu'ils représentent sur les images, ça permet tout, on imagine bien que ce que les IA ont pu comprendre à partir de nos modèles, enfin à partir du texte qu'on a pu produire jusque-là, et comprendre des images, et faire la liaison entre les deux, on sent bien que la somme, c'est pas juste 1 plus 1 égale 2. Il va y avoir des synergies où ça va sans doute accroître encore le pouvoir prédictif de façon démesurée. Donc voilà, de la manière qu'un modèle textuel, ces large language models, peuvent deviner le mot d'après, et donc sur la base d'une requête, deviner comment doit démarrer la réponse dans la foulée, et puis compte tenu de ce qu'on a déjà dit dans ce début de réponse, de continuer à imaginer le reste de la réponse, etc., etc., jusqu'à produire toute la réponse demandée. De la même façon, en fait, vous allez avoir des modèles qui, sur la base d'une photo ou même d'un début de vidéo, vous imaginer le reste de la vidéo, donc c'est-à-dire anticiper ce qui va se passer. Donc je lance une balle en l'air, j'ai une vidéo de quelqu'un qui lance une balle en l'air. Le modèle va réussir finalement à imaginer quelle va être le reste de la trajectoire de la balle compte tenu de tout ce qu'il y a par ailleurs sur l'image. Alors ça sera jamais vraiment exact, mais ça va finir par conférer en fait à ces systèmes un véritable pouvoir prédictif qui devrait être assez encore troublant et très très utile pour nous. D'ailleurs, je suis sûr que, alors je l'ai lu nulle part, mais de la même façon qu'on parle de large language models, je pense qu'on devrait parler de large video models, ça devrait arriver, c'est-à-dire c'est mécanique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui autour du texte était plus ou moins prévisible, il fallait un peu extrapoler ce qui se faisait déjà à l'époque. Moi j'avais écrit un article il y a quelques années, d'ailleurs, quand l'IA parviendra à générer un épisode de Game of Thrones en une seconde, on n'y est pas encore, mais c'est un peu le sens de l'histoire quand on prolonge un peu ce qui se passe aujourd'hui sur l'IA génératrice, que ce soit de texte ou d'image ou de vidéo. Donc on y va tout droit. Et donc aujourd'hui on est en train de s'extasier devant ce que peut faire ChatGPT, mais et on parle un peu moins de ce qui s'annonce, mais c'est, ça me paraît évident que, alors ce qui doit manquer encore c'est la puissance de calcul nécessaire, mais le moment venu on sera en mesure de digérer tous ces corpus de vidéos, et d'ailleurs c'est déjà le cas à bien des égards, puisque Yann Lequin, dans un entretien donné à France Inter hier ou avant-hier, expliquait que à la limite le déploiement d'intelligence artificielle le plus massif dans le monde, mais dont on a peut-être le moins conscience, c'est tout ce qui est modération des contenus. À savoir qu'aujourd'hui, Facebook est capable d'identifier du contenu pornographique ou terroriste de façon bien plus fiable qu'avant sur ces plateformes. Et c'est pour ça que s'il y avait eu d'ailleurs des tentatives de déstabilisation des démocraties, alors au moment du Brexit, au moment de l'élection de Trump hein, par les Russes, en fait, il n'y a rien eu de tel par la suite lors des élections allemandes, françaises et puis ensuite à nouveau américaines. Donc les progrès sont bien là et ça, on imagine bien que ça suppose de savoir ce qui se passe sur des photos, sur des vidéos. Donc on en parle peut-être un peu moins, mais bien sûr que les travaux sont engagés, avancent, mais ça n'est pas encore grand public comme peut l'être ChatGPT, du fait que au-delà des modèles qu'ils avaient développés qui restaient assez théoriques, ils ont mis au point cet outil ChatGPT qu'ils ont mis dans nos mains et qui a permis au grand public de vraiment se rendre compte de la portée en fait de ces travaux et de l'avancée des développements en intelligence artificielle. Mais on n'est encore que sur du texte. Mais imaginez une fois que les travaux seront arrivés un peu bien plus loin qu'ils ne sont aujourd'hui, mais sur la digestion de tous ces contenus vidéo dans lesquels on va détecter du sens, dans lesquels on va parvenir à comprendre ce qui s'y passe, quel objet interagit avec quel objet, ce qui devrait arriver sur l'image d'après. Donc tout ça est un moyen, un proxy, un intermédiaire pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Alors bien sûr, le monde dans lequel on vit, il est en trois dimensions, il y a des notions de perspective et de recul entre les objets qu'il est parfois difficile de mesurer sur de simples images. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que sans avoir à envoyer des robots partout, on peut imaginer que d'autres intermédiaires seraient les univers en 3D des jeux vidéo, ou même les photos à 360, ou même certains modèles qui, d'ailleurs, à partir d'une simple photo, vous reconstituent une scène en 3D qui vous permet de ensuite entrer dans la scène, un peu comme dans un jeu vidéo, et vous déplacer et faire une photo sous un autre angle. Ce qui est assez extraordinaire, hein, vous imaginez. Vous prenez une photo, je sais pas moi, d'une voiture dans la rue, et le modèle en fait va générer la scène en 3D, et vous allez après pouvoir vous déplacer de l'autre côté de la rue et prendre une photo de la voiture de l'autre côté. Alors évidemment, vous n'avez pas pris la photo de l'autre côté, mais l'IA va comprendre qu'on a donc une voiture ou un objet qui ressemble à une voiture qui est au milieu d'une rue. Donc elle comprend, alors pas de la façon que nous on a de comprendre le monde, mais elle comprend qu'il y a un concept de voiture au milieu, au sein d'une rue, et que donc on peut tourner autour de la voiture dans la rue et voir la voiture de l'autre côté, et comme il n'y avait pas de photo prise de l'autre côté de la voiture, en fait elle va le générer en imaginant ce qu'il y a de plus probable à générer, mais c'est de l'autocomplete, mais pour la vidéo, pour l'image. mais qu'est-ce que c'est sinon que de commencer à bien comprendre et prédire le monde, si je peux maintenant me projeter dans un univers tridimensionnel à partir d'images et comprendre où me placer, comment me placer, voir ce qu'il y a derrière. Enfin, c'est comme d'ailleurs, souvent c'était une des critiques de l'IA, on expliquait qu'un enfant quand il voit par exemple un chat disparaître derrière un mur, il sait que le chat va réapparaître de l'autre côté du mur ou de l'autre côté de la porte. Alors qu'une IA est incapable de comprendre quelque chose d'aussi simple. C'est du bon sens qu'un enfant, au bout d'un an et demi, parvient à comprendre. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, l'IA devrait bientôt pouvoir développer ce bon sens. Alors, peut-être pas de façon mathématique, logique, de façon implacable, mais juste sur la base d'un assez grand nombre de vidéos digérées. Voilà. Donc, ça sera probabiliste, ça sera pas nécessairement encore complètement implacable et mécanique et mathématique et arithmétique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore des erreurs de logique de base dans les maths, sur les modèles textuels. Mais d'ailleurs, si on écoute Ilya Sutskever, qui est le génie derrière OpenAI, hein, parce que OpenAI, on parle de Sam Altman, mais Sam Altman, c'est le CEO, mais c'est quelqu'un d'ailleurs qui n'est pas un ingénieur, qui n'est pas un codeur, mais c'est vraiment le businessman, c'est le dealmaker. Ceux qui le côtoient expliquent que c'est celui qui porte une vision et qui est capable d'embarquer tout le monde dans sa vision. C'est un peu comme Elon Musk, sauf qu'Elon Musk, lui, il est vraiment ingénieur aussi. Donc c'est plus un Steve Jobs en fait d'une certaine manière, mais sans le côté méchant, faut croire. Sam Altman, c'est le dealmaker qui va réussir à motiver tout le monde, embarquer tout le monde dans son aventure, convaincre les gens de le suivre. Mais c'est pas l'ingénieur en tant que tel. Le vrai génie derrière OpenAI, c'est Ilya Sutskever. Lui, c'est ni plus ni moins qu'un des élèves à l'origine de Jeffrey Hinton. En 2012, quand ils ont mis au point les premiers modèles, enfin non pas les premiers, mais les modèles de reconnaissance d'image qui ont, lors d'un concours, explosé tout l'état de l'art, tout ce qui se faisait avec de l'IA symbolique par ailleurs. Parce qu'en fait, le deep learning, alors bon, il est devenu deep parce qu'après un moment, on a réussi à entasser ou à superposer de plus en plus d'étages de neurones artificiels, mais ce sont des systèmes qui existent depuis très longtemps. Justement, on a Yann LeCun qui avait mis au point des modèles qu'ils appellent des modèles convolutifs qui permettaient de reproduire un peu ce qui se passe dans le cerveau quand on voit. Et donc c'est ce qui est un modèle qu'il a mis au point à la fin des années 80, début des années 90, et qui avait été utilisé très tôt dans la reconnaissance OCR, optical character recognition, notamment pour la lecture des chèques. Donc ça, c'est, on le doit à Yann LeCun, donc cocorico. Et donc ce sont des modèles très anciens, mais c'est juste qu'on manquait de puissance de calcul pour les faire scaler et pour les faire atteindre un niveau de performance qui tranchait avec ce qui se faisait jusque-là avec de l'IA symbolique. Et c'est donc en 2012 que tout a explosé, qu'on s'est mis à parler à nouveau de l'IA, qu'on est sorti de l'hiver et que le deep learning est venu sur le devant de la scène et a éclipsé tout ce qu'il faisait par ailleurs. Et d'ailleurs, autant tout le monde décrit le deep learning que c'était dans une impasse, ça n'est nulle part. Et c'est là où les trois parrain de cette IA moderne qui repose sur le learning, mérite notre respect, parce que eux, pendant des années, ils y croyaient, Jeffrey Hinton, Yann LeCun, Joshua Benjo, ils y croyaient. Alors, Joshua Benjo était bien plus jeune, donc c'était, à la limite, ça a été un peu moins difficile pour lui, mais pour les autres, ils ont traversé, donc, cet hiver, et ils y croyaient, et en fait, le jour où il y a eu assez de puissance de calcul, assez de corpus de données, plus ou moins bien étiquetées, leurs modèles ont fini par faire des miracles, et en 2012, ils ont explosé au grand jour. Et Jeffrey Hinton, qui est derrière, donc c'est ce qui était derrière ce modèle en 2012, ben son meilleur élève c'était Ilya Sutskever, qui est maintenant le génie derrière OpenAI. Donc c'est quand même un petit monde. Pourquoi je fais cette digression? Parce que Ilya Sutskever, dans un podcast, explique que s'Ilya fait encore de grosses erreurs arithmétiques, il est confiant pour trouver la solution. Il a pas dit comment, puis même s'il avait dit comment, je sais pas si j'aurais compris, mais parce que tout ça devient très technique, mais il est confiant pour résoudre le problème. Et d'ailleurs, on oppose souvent l'IA qui repose sur le deep learning et l'IA historique qui repose plus sur les symboles, la manipulation de symboles, mais la vérité c'est que tous les modèles récents qui reposent sur le deep learning intègrent aussi une part de symbolique. Il y a une architecture quand même qui est ajoutée. Donc on est déjà dans un mélange des genres et sans doute que la solution, et ça c'est Gary Marcus qui est donc un cognitive scientist en anglais, alors un scientifique de la cognition qui est parti plus du langage et du fonctionnement du cerveau humain pour essayer pour se demander comment produire de l'intelligence artificielle. Et lui donc il explique, alors il a fini par accepter, Gary Marcus, qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur le deep learning, mais lui, son propos depuis des années, c'est de dire que ça n'est pas l'alpha et l'oméga de l'intelligence artificielle. Il faut sans doute faire la jonction des deux, de l'IA symbolique et du deep learning, pour peut-être arriver à des modèles encore plus puissants et des modèles qu'on comprendrait peut-être un peu mieux, donc un peu plus interprétables, qui se permettraient d'ailleurs de les contraindre et peut-être de les aligner un peu mieux. Donc si, en faisant cette jonction des deux, mais ce qui semble quand même être parti pour être le cas, sans doute que l'IA, au-delà de son pouvoir prédictif qui repose sur les probabilités, pourrait aussi inclure assez de notions de logique pour ne pas faire des erreurs de débutant, notamment sur tout ce qui est la partie calcul, ce qui est quand même important pour comprendre le monde. Donc bon, je schématise énormément, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça donne quand même une bonne idée de d'où on va. Et donc voilà, vous voyez, au-delà du texte, en passant par les images, les vidéos, et aussi avec les modèles tridimensionnels qui peuvent en être déduits aussi, que ce soit ce qu'on peut déjà voir dans les jeux vidéo ou via des modèles qui reconstituent des scènes en 3D à partir d'images, on se rapproche quand même du monde réel. Vous avez aussi tous ces simulateurs en 3D qui permettent de jouer avec les lois de la physique pour simuler le choc de deux objets, et donc tout ça couplé aux images, couplé au texte, doit pouvoir offrir aux IA de demain un pouvoir prédictif encore accru, une compréhension humaine incroyable, donc avec des synergies incroyables. Et si vous couplez ça à la capacité à agir sur le monde en ayant accès en fait simplement à Internet, c'est-à-dire en pouvant derrière confier des missions à des freelances, utiliser un budget pour acheter de la publicité en ligne, expérimenter avec des business models, développer des sites web, générer du trafic, peut-être acheter, vendre, mais sans posséder le moindre bien, juste en achetant à des fournisseurs, en vendant à des internautes. Donc on peut imaginer que de telles IA avec un tel pouvoir productif couplé à la capacité d'agir en ligne leur confère une capacité à résoudre des problèmes intellectuels et physiques qui pourraient quand même, au bout d'un moment, sans doute égaler, pourquoi pas peut-être dépasser notre propre capacité à nous, ce qui est à la fois fascinant et très effrayant. Voilà. Bon, j'en reste là pour aujourd'hui. Bonne journée.